professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi revenir à la rupture de 1968 ? Comment redéfinir les termes de notre émancipation dans le monde d'aujourd'hui, tenté par les régressions et marqué par l'effritement démocratique ? Quelle est la nature du changement à l'œuvre ? Comment dépasser notre difficulté à interpréter cette mutation au-delà des concepts trop massifs et flous, nous dit Pierre-Auzan Vallon, de crise, de mondialisation, de néolibéralisme ? À rebours d'un fatalisme morose et désabusé, du sentiment d'impuissance, Pierre-Auzan Vallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France, propose de retrouver le chemin, et je le cite, des enthousiasmes et des explorations de 1968 à nos jours. Il y a urgence dans le contexte actuel et il nous expliquera d'ailleurs son rapport à l'urgence politique depuis la Révolution de mai qui a pu le guider vers la publication d'essais d'intervention tout en ayant le sentiment que ses ouvrages arrivent trop tard. Pierre-Auzan Vallon retrouve cette semaine le ton de sa leçon inaugurale au Collège de France quand il nous rappelle la formule de Pierre Naville « Il faut organiser le pessimisme », formule extraite de son livre « La Révolution et les intellectuels » en 1926. L'historien du politique rappelle aussi sa définition de l'histoire conçue comme un laboratoire actif de notre présent. Dans un ouvrage consacré à son travail, « La démocratie à l'œuvre », publié au Seuil en 2015, Pierre-Auzan Vallon, qui est passé d'HEC à la CFDT puis à l'EHESS, explique, et je le cite, « Je suis devenu universitaire pour apporter une réponse plus solide à mes questions matricielles autour de l'entropie démocratique et de l'égalité sociale. » Un universitaire d'ailleurs atypique, puisque je n'ai jamais enseigné au sens de donner des cours. Mon élection en 1983 à l'École des hautes études en sciences sociales, puis au Collège de France en 2001, deux institutions particulières, Bourdieu parlait de la seconde comme d'un refuge pour hérétiques consacrés, m'a donné pendant plus de 30 ans la possibilité de concevoir mes enseignements comme une mise à l'épreuve publique des livres en cours. En cette année 2017, bousculée par l'arrivée d'un Donald Trump après le séisme du Brexit et avant les grandes échéances électorales en Europe, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, Pierre-Auzan Vallon nous propose de revenir sur les 50 dernières années à partir de la riche et finalement mal évaluée rupture de 1968. Cette série de cours se prolongera jusqu'en 2018. Histoire à suivre donc. Mais ce matin, l'historien du politique ouvre sur une nécessaire et schématique mise en perspective. Nous retrouvons les philosophes politiques et les économistes du XVIIIe et XIXe siècle, du capitalisme utopique à l'émancipation revitalisée par Marx et Proudhon et le suffrage universel, aux solidarités de Léon Bourgeois et à la révolution keynésienne, dont Pierre-Auzan Vallon nous dit les apports mal évalués. Il souligne que la perspective nationale productiviste vient à nouveau nous hanter. À partir des années 1970, se joue l'effritement progressif du deuxième âge de l'émancipation. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 11 janvier dernier pour le cours de Pierre-Auzan Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui, une histoire longue de la modernité et de l'émancipation.
Bonjour à tous pour ce nouveau cours. Ce cours a donc pour titre 1968-2018, mais il se terminera en 2018. Je ne vais pas parler de 2018 cette année. Avec comme sous-titre « Une histoire intellectuelle et politique ». Et c'est le moment historique dans lequel nous vivons qui m'a poussé à faire ce cours. Car si l'histoire nous mord plus que jamais la nuque, nous restons en même temps, me semble-t-il, les spectateurs tétanisés des régressions qu'elle charrie et des menaces inédites qu'elle dessine. Nos désenchantements, nos colères et nos impatiences se conjuguent en effet avec une impression diffuse d'impuissance. Ces différents sentiments se lient, formant un mélange implosif. Voilà le point où nous en sommes. Nous ne pouvons pas en rester là. Il y a en effet urgence à ce que nous percevons comme une dislocation rampante des économies et des sociétés, depuis longtemps à l'œuvre, s'est en effet maintenant ajoutée la perspective d'une dévitalisation galopante des démocraties aux multiples manifestations que le terme de populisme a, entre autres, entendu désigner. Et le spectre du terrorisme superpose en outre désormais son ombre menaçante avec tous les bouleversements internes aux sociétés qui commencent à en dériver. Le terme de crise a longtemps été utilisé pour qualifier ce qui était ressenti dès la fin des années 1970 comme une rupture avec des années postérieurement qualifiées de Trente Glorieuses. Mais ce mot en caoutchouc n'a guère aidé à comprendre la nature profonde du changement qui était à l'œuvre. Il n'a en effet cessé de recouvrir deux choses très différentes. La référence d'abord à ce qui commençait à être perçu de façon diffuse comme une bifurcation de l'histoire, d'une part, et, d'autre part, la dénomination de moments critiques parfaitement identifiables dans l'ordre monétaire ou bancaire en particulier. Crise du peso mexicain en 1994, ou crise des subprimes de 2008, par exemple. Si la seconde acception du terme subsiste du fait du caractère bien circonscrit des événements ou des situations auxquelles il est référé, il n'en a plus été de même pour qualifier ce qui a fini par devoir être appréhendé comme une mutation et pas simplement comme une interruption du cours existant des choses. Les dérives structurelles du monde ont du même coup été décrites avec un nouveau vocabulaire, dans lequel ont dominé, par exemple, les références au néolibéralisme, à la mondialisation, aux méfaits de la technologie bruxelloise, et plus récemment, à un grand retournement conservateur. Mais ces termes sont restés trop massifs et trop flous pour saisir adéquatement la réalité et permettre, en retour, d'agir pour la modifier. Faute d'avoir du même coup l'intelligence de notre perplexité et de notre critique spontanée, nous restons enfermés dans un fatalisme morose et désabusé. L'impuissance peut certes résulter d'un renoncement ou d'une sourde fatigue, mais elle s'enracine au premier chef dans une difficulté à interpréter le monde et à donner sens à l'histoire. Si le pessimisme de l'analyse est permis, recommandé peut-être même en tant que gage de lucidité, au moins faut-il être capable de l'organiser. Je reprends là la formule de Pierre Naville, qui dans La Révolution et les intellectuels en 1928 disait déjà que la première fonction de l'intellectuel, c'est d'organiser le pessimisme. Mais d'accorder ce pessimisme à un optimisme de la volonté, selon une autre formule qui a guidé le rapport entre l'action et la réflexion de plusieurs générations. Faute de comprendre la nature précise du moment historique dans lequel nous sommes immergés, nous sommes ainsi livrés sans repère à ces mouvements erratiques. Le but de ce cours est d'apporter une contribution à l'inversion de cette tendance déprimante, en reprenant le chemin des enthousiasmes, des explorations des années 1968 à nos jours, mais après l'avoir restitué dans une interprétation plus large du déploiement de la modernité et des figures de l'émancipation qui lui ont été associées. Car notre impuissance est bien aussi celle de notre incapacité à redéfinir les termes de cette émancipation dans le monde d'aujourd'hui. Incapacité dont l'effacement politique de la gauche peut être, par exemple, compris comme une des traductions les plus lisibles. Il faut donc, paradoxalement, commencer notre enquête par la fin, en proposant d'emblée de situer ces 50 dernières années dans une histoire longue de la modernité et de l'émancipation. L'histoire humaine de l'émancipation est longue. C'est d'abord celle des peuples qui se sont rebellés contre ceux qui les avaient asservis ou menacés leur espace vital. Et la Bible est le premier livre à avoir donné le récit exemplaire d'un tel combat, ayant acquis pour cela une portée universelle. L'idée de peuple libre est pour cette raison immémoriale. Elle se confond avec celle même de peuple comme figure d'une identité protectrice. C'est aussi celle des hommes qui ont voulu choisir et imposer leur destin propre et prendre le large. Là, c'est l'Odyssée qui a fait sentir de façon pionnière la force de cette capacité d'aventure singulière de l'être humain pour le réaliser. Mais dans ce cas, les voies de la religion, de la tradition ou de la contrainte sociale ont longtemps pesé pour borner cette aspiration. La situation faite aux femmes en ayant été l'exemple qui est maintenant le plus criant à nos yeux. S'il est inexact de considérer que c'est la modernité qui a inventé l'individu, de nombreux travaux portant sur l'Antiquité ou le Moyen-Âge l'attestent sous différents angles, la figure de ces derniers acquiert pourtant bien une centralité inédite avec l'entrée de ce que nous avons pris l'habitude d'appeler la modernité. Et ce sont les œuvres de Rousseau, de Locke ou de Kant qui résument commodément à nos yeux le sens et les conditions de cet avènement. Si Rousseau est d'abord pour nous l'auteur du contrat social, maintenant, c'est à la Nouvelle Héloïse, à Émile, puis aux Confessions qu'il devra son succès auprès de ses contemporains, en tant qu'anthropologue et psychologue. Il l'a fait, il a fait dans ses livres de la quête de l'indépendance la clé du bonheur et de l'accomplissement de l'humanité de chacun. Et dans une des premières lettres que nous gardons de lui, envoyée à son père, il avait dit qu'il avait avant tout le souci de vivre sans le secours d'autrui. Peu de temps auparavant, Locke avait élaboré en philosophe politique, dans son deuxième traité du gouvernement civil de 1690, une théorie de l'homme libre comme, je le cite, « individu propriétaire de lui-même ». Individu ayant ainsi le moyen de vivre sa liberté, défini comme absence de suggestion, affranchissement de tout type de volonté extérieure. Théorie de l'autonomie qui était adossée chez lui à une vision politique annonciatrice de l'idéal démocratique. La liberté de l'homme en société, disait-il en effet, consiste à ne relever d'aucun autre pouvoir législatif que celui qui était établi dans la République d'un commun accord. En termes intellectuels et moraux, Kant, de son côté, on le sait, avait défini les Lumières comme la sortie de l'homme de l'état de minorité dans lequel il se maintient par sa propre faute. Cet état de minorité étant compris par Kant, je le cite, comme l'incapacité de se servir de son propre entendement sans être dirigé par un autre. Avec John Millar, les Lumières écossaises avaient, quant à elles, inscrit ce sacre de l'individu émancipé, indépendant, dans une philosophie progressiste, on dira bientôt Whig, de l'histoire. Dans son Origine de la distinction des rangs, Millar proposait ainsi d'interpréter tout le mouvement de la civilisation comme celui d'une marche inéluctable et désirable vers une autonomie croissante tant des individus que de la société civile. L'indépendance, telle qu'elle était appréhendée dans ses différentes approches, ne définissait pas seulement une qualité intrinsèque des personnes, elle correspondait aussi à l'avènement d'un nouveau type de société. L'indépendance constituait une forme sociale. La société des individus était en effet fondée sur le principe d'une réciprocité des consciences libres, pour reprendre une heureuse formulation de Jean Starobinski. D'où, dans le cas français, le caractère considéré comme inséparable des droits de l'homme et du citoyen, une citoyenneté active et égalitaire étant la condition d'une garantie de l'autonomie de chacun. Les institutions, Robert Castel aurait dit de façon imagée les supports de cette autonomie, étaient au nombre de trois pour les Lumières. La propriété, le marché et l'état de droit. La propriété d'abord. Elle était comprise depuis Locke comme ce qui donnait consistance à la possibilité de mener une existence indépendante. La propriété, alors, ce n'était ni l'ordre bourgeois, ni la concentration capitaliste des moyens de production. La propriété, c'était la terre à celui qui la travaille, l'atelier à celui qui s'active du matin au soir, l'échoppe à celui qui distribue la production des autres. Pendant la Révolution française, cette considération de la propriété sera continuellement réaffirmée. Et la Constitution de 1793 même, reprenant la liste des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, donnée dès la déclaration 1789, reproduira ces trois droits, la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression. Le marché était de son côté considéré comme une condition et comme un moyen de l'autonomie des individus. Le marché rend libre, dira plus tard Max Weber, pour résumer la vision des théoriciens de la première modernité. Avec la suppression des corporations, qui allait de pair avec son affirmation, l'activité de chacun, pensait-on, pourrait dorénavant s'exercer sans entrave. À l'inverse des formes d'organisation hiérarchique et extérieures à l'activité des hommes, soutenait ainsi Adam Smith, le marché mettait en place un mode de régulation de l'activité économique qui n'avait pas besoin de recourir à des autorités instituées. Pour lui, le marché réalisait des ajustements automatiques, procédait à des transferts sans que la volonté humaine en général et celle d'un pouvoir administratif ou politique en particulier joue aucun rôle. Pour les Lumières écossaises, le marché permettait ainsi de dédramatiser le face-à-face des individus, de dépassionner leurs relations, de mettre en place un mécanisme désamorçant la violence virtuelle des rapports de force. Le marché mettait en place le pouvoir d'une main invisible, neutre par nature, puisque non personnalisée. Et toute l'histoire, la première histoire de l'émancipation, était celle de la recherche d'un pouvoir non personnalisé, que ce soit en politique ou que ce soit en économie. Le marché instaurait ainsi un mode de régulation sociale abstrait, des lois objectives, naturelles, régler avec lui les rapports entre les individus sans qu'existe entre eux aucun rapport de subordination ou de commandement. L'idée de marché avait de la sorte pour Adam Smith une dimension indissociablement morale et sociale. Vision utopique de l'économie, nous sommes naturellement aujourd'hui amenés à formuler un tel diagnostic. Tant la célébration des vertus d'un doux commerce et d'une bonne économie opposée aux vices d'une mauvaise politique nous semble naïve. Mais c'est oublier que les hommes et les femmes du XVIIIe siècle vivaient dans une société précapitaliste et qu'ils étaient soumis à des régimes despotiques. Le marché, pourrait-on dire, était encore pour eux une idée neuve, presque vierge de toute épreuve. Et c'est en ce sens que j'ai été amené à parler de capitalisme utopique. Aux côtés du marché, le règne de la loi instaurer pour les Lumières un autre type de pouvoir dépersonnalisé, garant de l'autonomie des individus. Ce règne révolutionnait l'action publique. Il en évacuait, certes, toute forme d'arbitraire, mais il conduisait plus radicalement à la désubjectiver, en mettant au poste de commandement un pouvoir de la règle, un pouvoir objectif, qui se substituait à l'ancienne volonté d'un maître. La loi pouvait pour cela commander sans opprimer dans sa triple caractéristique d'objectivité, d'impartialité et de désintéressement. Elle aussi rendait libre de cette façon. Elle était un maître d'un type nouveau, une puissance d'ordre qui obligeait les hommes sans les dominer. Elle contraignait sans les violenter ou sans les humilier ceux qui lui obéissaient. Tels étaient les fondements anthropologiques et conceptuels de la première modernité. Ils dessinaient ce qu'on pourrait rétrospectivement appeler un libéralisme optimiste. En témoigne de façon exemplaire une remarque de Lacanal, un des grands réformateurs de l'éducation pendant la Révolution française, soulignant dans un rapport resté célèbre que le développement de l'instruction aurait pour effet de détruire l'inégalité fâcheuse des Lumières, Lacanal avait lancé, pour compléter son appréciation, la liberté politique et la liberté illimitée de l'industrie et du commerce détruiront pareillement les inégalités monstrueuses des richesses. Cet optimisme se liait en outre à la perspective d'une disparition de la consommation somptuaire considérée comme un effet de la division du social constitutive de la domination du monde aristocratique. Et une grande partie de l'économie politique du XVIIIe siècle a été consacrée à cette réflexion sur la part du luxe dans l'économie et dans la fabrication des rapports sociaux. Ainsi ressurgit, avec la culture révolutionnaire, tout un ensemble d'idées politiques et morales sur les liens de l'ordre social à la richesse qui ont été communes à l'ancien humanisme civique autant qu'au monde du jansénisme. La frugalité et la mesure étaient considérées dans ce cadre comme des valeurs essentielles pour que les individus arrivent à maîtriser leurs passions et pour que la société reste bien ordonnée. Depuis le XVIIe siècle, de nombreux écrivains réclamaient dans cet esprit la mise en œuvre de lois somptuaires, supposées limiter l'asservissement des hommes aux richesses en taxant fortement les produits de luxe. Cette réflexion sur les lois somptuaires n'était pas neuve à l'époque. C'était une réflexion qui empruntait beaucoup à l'Antiquité, puisque dans le monde grec, autant que dans le monde romain, de nombreuses lois somptuaires ont limité les dépenses que pouvaient faire les citoyens pour éviter que se manifeste leur inégalité. Et Adam Smith lui-même partageait cette vision morale. Une apologie ouverte de la frugalité voisinait chez lui avec les célébrations de la division du travail et de l'accroissement des échanges. Le père fondateur de l'économie politique n'était en aucune façon un chantre de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui la société de consommation. L'estomac du riche, écrivait-il typiquement en une formule célèbre, n'est pas en proportion avec ses désirs et ne contient pas plus que celui du villageois grossier. C'est cette conception qui lui permettait de développer sa théorie fondamentale de l'égalisation relative des intérêts et des besoins, qu'il a exprimé pour la première fois dans sa théorie des sentiments moraux. Adam Smith restait en ce sens, lui aussi, pénétré de l'esprit du républicanisme civique. Montesquieu et Rousseau, de leur côté, stigmatiseront pareillement le luxe et la constitution des différences sociales excessives dont il était pour eux le moteur. Ils pensaient sur ce point exactement comme le curé Méliès, qui était alors le grand apôtre du radicalisme de la période. Il est fondamental de le rappeler. Il faut bien avoir en tête cet arrière-fond pour comprendre tant l'esprit d'égalité pendant la Révolution française que l'esprit du premier libéralisme comme culture de l'autonomie. Culture qui faisait aisément consensus dans les milieux progressistes parce qu'elle s'était fondée, je le rappelle, dans un monde précapitaliste, un monde qui n'avait pas encore été soumis à l'épreuve de la perturbation sociale radicale qu'engendrera la révolution industrielle. C'est un point sur lequel Condorcet a beaucoup écrit, par exemple. L'évolution des économies et des sociétés va conduire à l'invalider pratiquement, à des rythmes et selon des modalités, certes très différenciées selon les pays. Cette culture du premier libéralisme restera ainsi beaucoup plus longtemps vivante aux États-Unis, pays où le développement du capitalisme fut beaucoup plus tardif et où l'esprit de frontière favorisa en outre la rémanence de la perception d'un lien entre indépendance et prospérité. Un monde aussi où la salarisation du monde, du travail, fut plus lente qu'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'au moment où les États-Unis mettent en place leur première constitution, en 1787, 95% des Américains sont des travailleurs indépendants. Quelles furent les conséquences de ce constat? Elles ont été de deux ordres opposés. Il y a d'abord eu l'adoption d'une vision minimale de l'égalité des droits et de l'égalité des chances, une justification des inégalités, soit comme étant d'ordre naturel, soit comme reflétant des différences estimées morales entre les individus. Ce sera un grand courant de pensée pratiquement dominant dans les pays européens au début du XIXe siècle. Face donc à des faits qui remettaient en cause les principes, les valeurs, les espérances de ce premier libéralisme, eh bien, on a répondu en disant que l'impératif d'autonomie devait dorénavant être compris de façon restrictive, que le peuple de son côté était assimilé à une humanité restée dans l'enfance. Et ces éléments, eh bien, ils constitueront ce qu'on pourrait appeler un libéralisme rétréci. Et ce libéralisme rétréci, il définira l'idéologie bourgeoise. L'idéologie bourgeoise justifiant l'état existant des choses en naturalisant, en quelque sorte, cet ordre donné. Naturaliser, c'est-à-dire en prétendant l'établir, en la soustrayant à son histoire. Une histoire qui était justement une histoire ouverte, une histoire problématique, une histoire qui interrogeait cette possibilité d'émancipation. Eh bien, ce libéralisme rétréci, lui, il cessera de considérer cette histoire comme dynamique. Il la figera dans un ordre jugé naturel, arrêté. Cela conduira du même coup à une appréhension négative du mot libéralisme, désormais souvent confisqué, en France tout particulièrement, par cette idéologie bourgeoise. Mais il y a eu parallèlement aussi la recherche de formes d'actualisation, d'adoption de correctifs ou de redéfinition des conditions de validité de ce libéralisme utopique. Les recherches pour essayer de revivifier ce libéralisme utopique se déploieront au XIXe siècle dans trois directions. Une première direction, c'est par le retour à l'optimisme du XVIIIe siècle avec la perspective d'une révolution des forces productives, révolution qui permettrait de réduire le travail et donc d'accéder à une forme d'abondance conduisant presque automatiquement à l'émancipation du genre humain. Marx a été le philosophe de cette perspective. Alors que les Lumières écossaises, notamment, insistaient sur le rôle de la frugalité dans la société, Marx annonçait que c'est l'abondance qui allait produire ses effets positifs. Et que sa vision du communisme comme un état de société dans lequel chaque individu pourra devenir l'artiste de sa propre existence redonnera de cette façon consistance aux idéaux du libéralisme premier, mais lui redonnera consistance dans une société post-révolutionnaire qui aura libéré les forces productives et donc aboli l'ordre contingent des besoins. La deuxième voie qui a été empruntée pour essayer de restaurer le libéralisme optimiste, après cette philosophie révolutionnaire de l'histoire, cette philosophie du développement des forces productives qui avait été celle de Marx, sera celle d'une recherche plus limitée, celle d'une recherche pratique de formes d'organisation productive et de techniques économiques qui pourront redonner au projet d'autonomie des individus la possibilité de s'inscrire dans une économie de marché développée et dans une économie aussi techniquement plus développée. Cela a d'abord été la perspective de l'idée coopérative, dont on sait la place qu'elle a occupée au XIXe siècle dans le monde ouvrier, tout particulièrement en Angleterre et en France. Et cette vision a aussi été au cœur de l'œuvre d'un Proudhon, avec son plaidoyer pour la mise en place de ce qu'il a appelé les corporations nouvelles, désormais inscrites dans une vision fédéraliste du monde social. La grande idée de Proudhon, c'est que la Révolution française avait eu tort de supprimer les corporations. Il fallait les réinventer. Et que la liberté et l'autonomie, disait-il, est toujours une façon nouvelle d'essayer de recombiner le vieux monde et un nouveau monde. Proudhon a également proposé de redonner sens à cette vision économique de l'autonomie avec le développement d'une technique novatrice du crédit. Et tous les écrits très nombreux qu'il a écrits à l'époque autour du projet de création d'une banque du peuple suggéraient en effet de façon originale pour l'époque de renverser les rapports entre le capital et le travail. Qu'est-ce que l'économie capitaliste, si ce n'est un système dans lequel c'est le capital qui achète le travail et qui achète la force de travail et donc asservit l'ouvrier de cette façon. La grande idée de Proudhon, c'est qu'il devrait être possible d'inverser les choses en permettant au travail d'acheter, ou plus exactement de louer, le capital à travers un système de crédit facilement accessible. Et on voit pendant cette période, dans les années 1840 notamment, tout un mouvement dans le milieu des artisans et des ouvriers parisiens pour demander l'accès au crédit. Il faut dire que c'est un moment où il n'existe pas encore véritablement de banque dans ce pays. Et l'idée de Proudhon, pour lui donner une illustration aujourd'hui, correspond à ce qu'on appellerait les formules de crédit-bail, c'est-à-dire une suppression en quelque sorte de la propriété. Une suppression de la propriété en faisant de la propriété un moyen locatif de production. C'est la raison pour laquelle Proudhon a été si populaire dans le milieu ouvrier français, car ses propositions, ses réflexions consonnaient directement avec les attentes de ceux qui pensaient possible de trouver un moyen de travail qui ne soit pas lié à une forme d'exploitation. La troisième voie qui a été poursuivie pour essayer de retrouver un sens de l'autonomie a été de développer des institutions générale favorable à l'émancipation. Et c'est dans cette perspective qu'a été conçue la conquête du suffrage universel, telle qu'elle a été comprise dans les années 1840 en France et en Angleterre, en disant il y a eu au XVIIIe siècle trois grandes institutions de l'émancipation, le marché, la loi, et puis aujourd'hui nous allons ajouter une quatrième institution, le suffrage universel. C'est le suffrage universel, disait-on, qui sera le grand correcteur des dysfonctionnements des autres supports de l'émancipation. Et en Angleterre, on le sait, les chartistes avaient fait de l'extension du droit de vote le cœur de leur manifeste, adopté en 1838. La lutte pour les salaires, la question des conditions de travail, le rejet des working houses, tout ce qui constituait le malheur ouvrier était compris par les chartistes comme la conséquence nécessaire du suffrage censitaire. Si le riche est puissant, disaient les chartistes, c'est parce qu'il participe à la fabrication des lois et c'est parce qu'il peut légiférer qu'il est riche. O'Brien, le principal théoricien du mouvement, faisait donc du suffrage universel, je le cite, « la grande panacée de tous les maux ouvriers ». On retrouvait le même type d'approche dans la France d'avant 1848. Gouvernement représentatif veut dire mécanisme gouvernemental à l'aide duquel les intérêts du peuple pourraient obtenir satisfaction. Voilà ce qu'on lisait dans les manifestes de la Société des Amis du Peuple. Au moment de la première bataille pour la réforme électorale, l'un des plus fameux pamphlétaires de la période, un Nivernais, Claude Tillier, notait abruptement « Les droits politiques donneront du pain au peuple. Si le peuple était souverain, il ne laisserait point couper ses tartines comme un enfant. » Ceux qui font la loi la font pour eux. Tel était en effet le leitmotiv de l'époque, en Angleterre comme en France. Et lorsque le suffrage universel sera proclamé en 1848, l'immense majorité du peuple pensera pour cela qu'une nouvelle ère économique et sociale allait s'ouvrir et que le temps de l'émancipation allait revenir. À dater de cette loi, il n'y a plus de prolétaires en France, ira dire dans ce sens Le Drurolin au moment où le gouvernement provisoire proclame le suffrage universel. Et la bonne représentation que garantirait le vote de tous était comprise comme devant conduire à la mise en œuvre d'une bonne politique profitant nécessairement au grand nombre et maintenant les conditions d'une autonomie heureuse de chacun, selon une formule qu'on a vue employée à l'époque. Les idéaux du XVIIIe siècle pourraient alors à nouveau devenir réalité de cette triple façon, pensait-on. Et parlant de l'Angleterre en 1850, Engels dira la même chose. Dans un article dans la Neue Rheinische Zeitung, une nouvelle gazette rhénane, il écrira « Le suffrage universel, dans une Angleterre habitée à deux tiers par des prolétaires industriels, entraînera le régime politique exclusif de la classe ouvrière, avec toutes les transformations révolutionnaires des conditions sociales qui en sont inséparables. » Ces trois façons de tenter de redonner consistance à l'idéal du premier libéralisme ne tiendront pas leurs promesses ou les reporteront dans un avenir indéchiffrable, même si l'idéal révolutionnaire ne cessera d'en revendiquer à sa façon l'actualité rémanente. La déstabilisation des idéaux du XVIIIe siècle et des périodes révolutionnaires par le développement du capitalisme n'avait pourtant pas encore produit tous ces effets. Ces effets, au milieu du XIXe siècle, ils restaient limités. Le travail indépendant de l'artisan ou du paysan continuait à occuper une place centrale dans la vie économique. La production industrielle des petits ateliers restait importante. Et les manufactures, qui avaient inventé l'esclavage moderne, employaient essentiellement un grand nombre de femmes et d'enfants. C'est quelque chose qui durera longtemps. Si on prend un exemple dans la France de l'entre-deux-guerres, les deux tiers de la production agricole ne quittaient pas la ferme. C'est-à-dire que lorsque l'on parle du développement du capitalisme, il faut toujours avoir en tête ce genre de chiffres. Et c'est seulement dans la moitié du XIXe siècle que le capitalisme commencera à prendre son plein essor et que le progrès technique commencera à faire un nouveau bond en avant et que l'économie de marché s'étendra. Ces transformations produiront alors, à la fin du XIXe siècle, des effets d'autant plus sensibles que cette fin de siècle sera marquée par un fort mouvement d'internationalisation des économies, que ce soit en termes d'échange des marchandises, de circulation des capitaux ou de migration. C'est ce qu'on a appelé la première mondialisation.
Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre aux Envalons, les années 1968-2018, aujourd'hui une histoire longue de la modernité et de l'émancipation.
L'entrée dans cette nouvelle ère économique va entraîner une approche différente de l'idée d'émancipation. Et l'individu n'apparaîtra plus comme le sujet pertinent de cette émancipation. La société devenant, plus évidemment qu'auparavant, comprise en termes de groupe, en termes de classe, et le développement du syndicalisme, comme l'apparition des premiers partis politiques, en seront l'expression. L'émergence de la sociologie validera cette rupture d'approche dans la représentation du monde social. On parlera même significativement en France, jusqu'au moment du centenaire de la Révolution française, d'une erreur sociologique fondamentale de la Révolution française. Erreur sociologique, disait-on, car la Révolution française s'est trompée en pensant que la société, la bonne société, la société qui allait émanciper les hommes, était une société d'individus libres et indépendants. La bonne société, la réalité, c'est que la société doit-elle penser en termes de corps ou en termes d'organismes contractuels ? Elle doit-elle penser en termes de classe ? L'homme seul n'existe pas, résumera Léon Bourgeois, l'auteur de « Solidarité », l'ouvrage qui conduira une génération de républicains et de radicaux à refonder leur culture politique. Dans « Liberalism », qui remplira une fonction équivalente outre-Manche, Hobhouse considérait pareillement que chaque individu, je le cite, était constitué par l'atmosphère sociale qui l'entourait. Et l'adoption conséquente d'une nouvelle philosophie de l'émancipation va se traduire par la formulation de tout un ensemble de projets réformateurs qui vont avoir pour but de limiter, de canaliser, de corriger et d'encadrer les effets destructeurs du nouveau capitalisme. Ce n'est plus l'individu autonome, mais la classe protégée qui deviendra la mesure et l'objet de l'émancipation. Et ces projets se développeront dans trois directions, bien connues, que je ne mentionne là, que pour les remettre en mémoire. D'abord, l'engagement de politiques de réduction des inégalités grâce à la mise en place d'une taxation progressive des revenus. Ensuite, la limitation du poids des aléas de l'existence sur les conditions matérielles de vie, aléas qui ont pour nom accident du travail, maladie, chômage, retraite, par des mécanismes d'assurance sociale, de situations qui deviendront appréhendées non plus comme des particularités, des accidents, mais comme des risques objectifs. Et s'il s'agit de risques objectifs, ils sont calculables et donc ils peuvent être assurés. Et en troisième lieu, tout simplement, la régulation de la condition salariée. Régulation de la condition salariée qui devient un nouvel objectif, alors que le précédent objectif de l'émancipation avait été son abolition. Je rappelle, et je le redirai plus loin dans le cours, que pendant très longtemps, le premier article des statuts de la CGT disait que le but de l'organisation était l'abolition du salariat. Et que ce thème de l'abolition du salariat restait fondamental, en tout cas dans la représentation avant la guerre de 14. Mais dès ce moment-là, la salariarisation de la société avait commencé à se développer, surtout en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. Et donc, la régulation de la condition salariée apparaissait aussi importante que l'organisation du travail autonome et indépendant. Et cette régulation de la condition salariée, elle se fera avec l'adoption de tout un ensemble de mesures, la reconnaissance et l'institutionnalisation du syndicalisme, après la Première Guerre mondiale, l'adoption du système des conventions collectives, le développement du droit du travail, le Code du travail est de 1905 en France, la mise en œuvre plus tard de politiques keynésiennes avec salaire minimum, politique de l'emploi, qui concéderont, ces politiques keynésiennes, les données économiques comme des variables d'action, donc susceptibles d'être activées, et non plus comme des résultantes données de l'activité économique. C'est cela, la grande révolution keynésienne n'est pas simplement une révolution de l'intervention de l'État, c'est une révolution où on considère que les données économiques sont des variables d'action et non pas simplement des variables de résultats. Et les éléments de cette nouvelle approche de l'émancipation s'inscriront dans les philosophies sociales différentes d'un pays à l'autre. Les termes de socialisme seront un peu partout utilisés. En Grande-Bretagne, celui de nouveau libéralisme sera très présent. républicanisme social en France, social-démocratie en Allemagne, qui en dessineront à chaque fois les cadres spécifiques. Cadres, d'ailleurs, eux aussi, à chaque fois, variables et composites. Mais le fait est que dans presque tous les pays seront alors mises en œuvre des mesures de cette nature, la pression sociale recoupant la volonté des gouvernants de repousser le spectre des révolutions. À des degrés certes très variables, selon l'état de rapport de force politiques et sociaux. Elles ont été aussi inscrites parfois comme un simple moment réformiste qui conviendrait de prolonger par une révolution permettant une appropriation sociale des moyens de production considérée comme la clé véritable d'une émancipation, non plus simplement par l'individu propriétaire de lui-même, mais par la société propriétaire de ses moyens d'organisation et de production. C'est la mise en place de ce train de réforme, il faut le souligner fortement, qui avait permis de faire reculer la perspective que j'ai qualifiée de nationale protectionniste qui avait eu, vers la fin du XIXe siècle, une indéniable force d'attraction en France notamment. Fondée sur une critique du progrès et de la modernité, cette visée nationale protectionniste avait voulu faire d'une nation d'exclusion le nouveau sujet de l'émancipation. Et cette vision nationale protectionniste ressurgira de façon même radicalisée avec les figures du fascisme et du nazisme dans l'entre-deux-guerres. Mais dès la fin du XIXe siècle, cette visée du national protectionniste avait été battue en quelque sorte en brèche, car il y avait eu la reformulation de ces termes de l'émancipation sociale. Et que cette visée nationale protectionniste, elle connaîtra sa défaite définitive, enfin définitive, jusqu'à ce que nous la voyions réapparaître dans cette période récente, avec la victoire et le plein développement de la vision que l'on peut appeler à la fois sociale, républicaine, keynésienne et démocratique. Et c'est l'effritement progressif de ce deuxième âge de l'émancipation qui s'est joué à partir des années 1970. C'est pour cela qu'il me semble important d'avoir bien la vision longue de cette histoire de l'émancipation, de ces deux âges précédents de l'émancipation et des conditions dans lesquelles ce deuxième âge de l'émancipation a commencé à vaciller à partir des années 1970. Pour trois catégories de raisons. Des raisons d'ordre économique d'abord, qui tiennent au premier chef au ralentissement de la croissance. Mais ce ralentissement a été interprété progressivement de façon différente. Il a d'abord été considéré comme une conséquence du premier choc pétrolier de 1973 et du renchérissement du coût de l'énergie qu'il avait entraîné. Mais progressivement, il était diagnostiqué comme plus structurel. L'effacement des Trente Glorieuses correspondant à la fin du cycle de rattrapage des économies européennes par rapport à l'économie américaine. Et c'est aujourd'hui encore un des grands thèmes de réflexion de l'économie politique, voir l'ouvrage de Gordon aux États-Unis qui a fait référence ces dernières années autour duquel beaucoup de discussions économiques tournent, que l'économie doit être interprétée dans ce sens de cycles qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans le monde avec des éléments de rattrapage, marquant par exemple la situation des BRICS il y a quelques années, de l'économie chinoise et indienne en particulier. Et donc le ralentissement de l'économie dans les années 1970, il doit être compris non pas comme un facteur conjoncturel, mais comme un facteur beaucoup plus structurel. Et que c'est un ralentissement qui a mécaniquement provoqué une crise financière de l'État-providence, attisée ensuite par la montée du chômage. Et des raisons que l'on pourrait dire d'ordre organisationnel aussi ont compté, liées à la fin de la période d'une économie dirigée. Je rappelle que c'est simplement à la fin des années 70 que la politique des prix, par exemple, est levée en France. Jusqu'à la fin des années 70, une entreprise qui mettait des produits sur le marché devait soumettre ses prix à l'approbation de la Direction générale des prix. Et également, c'est la période où se sont mis en place, c'est bien connu, des nouvelles formes de management dans l'État comme dans les entreprises, notamment induites par l'ouverture croissante des économies et l'entrée dans un nouveau cycle de mondialisation. Mais il y a des raisons sociétales, enfin, peut-être les plus importantes, qui correspondent, qui ont correspondu et provoqué en partie l'effondrement de ce deuxième cycle et de cette deuxième représentation de l'émancipation. C'est celui de l'entrée dans un nouvel âge de l'individualisme, un individualisme de singularité qui s'est progressivement superposé à l'ancien universalisme, à l'ancien individualisme d'universalité, pour reprendre les catégories éclairantes de Simmel. Car effectivement, le propre de l'individualisme tel qu'il est affirmé dans la culture révolutionnaire des droits, par exemple, c'est un individualisme qui est constructeur d'une universalité. Les droits donnés à chaque individu construisent une certaine vision de l'universalité. Et donc, c'est un individualisme qui, non seulement n'est pas destructeur de la société, mais c'est un individualisme constructeur d'un monde commun. Les droits ne sont pas simplement des qualités qui sont données aux individus, les droits correspondent à la mise en œuvre d'une forme sociale. Et donc l'individualisme d'universalité est une forme sociale. L'individualisme de singularité, il est une forme sociale d'un type nouveau, parce qu'il est une forme sociale qui se met en place en appelant, en exigeant, en quelque sorte, que chacun puisse aussi trouver une voie personnelle. Une voie personnelle qui correspond d'une certaine façon exactement aux réflexions que faisait Marx dans les Grundrisseux quand il disait que le but de l'émancipation, c'est de faire, je l'ai cité rapidement tout à l'heure, de faire que chacun puisse être l'artiste de sa propre vie. Être l'artiste, cela veut dire l'expression singulière de sa propre vie. Et c'est là mai 68 qui fait référence, évidemment, pour appréhender ce basculement décisif. S'en sont trouvés profondément, alors, modifiés les attentes de la société comme les perceptions du collectif et, en conséquence, le fonctionnement et même le statut de nombreuses institutions. Le déclin du taux d'adhésion aux organisations syndicales en ayant été un exemple particulièrement frappant. Et c'est pourquoi le terme d'individualisation, qui est souvent utilisé, ne donne qu'une image trop schématique et même fausse de ce mouvement. Car premièrement, l'individu ne naît pas avec la modernité, et deuxièmement, l'individualisation ne naît pas dans les années récentes. Ce sont des formes particulières de l'individualisation qui se développent, et faute de faire cette précision, eh bien, on en vient à faire de la recherche d'un individualisme de singularité l'ennemi, si je puis dire, de la cohésion sociale, alors qu'il est simplement la définition ou l'appel à une autre modalité enrichie de la cohésion sociale. Ces différents facteurs, ils ont maintenant été à l'œuvre depuis plus de 40 ans, faisant entrer les sociétés dans une troisième modernité, quels que soient les termes qui peuvent être employés pour la qualifier. Certains ont parlé de radicalisation de la modernité, d'autres d'accélération de la modernité. On peut aussi la qualifier en parlant de l'avènement du néolibéralisme. Et dans ce contexte, actuellement, trois types de réponses dominent à l'échelle de la planète. Premièrement, le retour au libéralisme utopique de la première modernité, dans ses différentes dimensions, articulé cette fois avec une vision optimiste de l'économie monde. À côté de ce retour au libéralisme utopique, pourrait-on dire, de la première modernité, nous voyons aussi le retour au projet national protectionniste, qui avait été une des réponses envisagées, je viens de le dire, à la deuxième modernité. Et il fait aujourd'hui souvent cause commune avec les visions qualifiées, pour faire très vite, je ne rentre pas dans ce détail maintenant, qualifiées de populistes du renouveau démocratique. Troisième type de réponse, c'est la tentative de défendre et éventuellement de reconstruire les institutions qui avaient donné consistance à la deuxième philosophie de l'émancipation, telle qu'elles avaient commencé à être formulées à la fin du XIXe siècle, puis enrichies jusqu'aux années 70. Institutions, d'ailleurs, souvent rétrospectivement emparées de toutes les vertus, alors qu'elles avaient été souvent vivement attaquées et critiquées des années 50 à ensuite. Mais dans ces trois cas de figure, il n'y a pas de tentative de formulation d'une nouvelle culture de l'émancipation. Une nouvelle culture de l'émancipation qui soit conçue pour répondre et aux enjeux de la troisième modernité dans laquelle nous sommes entrés. Et c'est à ce travail de formulation d'une nouvelle culture de l'émancipation qu'entend contribuer ce cours. Contribuer à cette formation d'une nouvelle culture de l'émancipation en partant d'une analyse et d'une interprétation de la période qui s'étend de 1968 à nos jours. L'histoire intellectuelle et politique de la modernité, dont je viens de vous proposer un schéma simplificateur, mais qui me semble tout de même robuste, et en tout cas, il était indispensable de commencer par ce point. Car ne pas commencer par ce point aurait été méconnaître, je dirais, la nature de l'étape dans laquelle nous nous trouvons et la définition des tâches qui doivent être les nôtres. Et je me suis efforcé, cette mise en place d'un schéma d'interprétation des différentes étapes de la modernité, de l'esquisser dans des termes qui permettent de le mettre à l'épreuve, tant ce qui concerne les catégories qui ont été employées pour le structurer, que les moments de basculement ou les périodes de gestation qui étaient distinguées pour en rythmer le déploiement. La discussion et la critique peuvent donc être tout à fait ouvertes sur ce point. Mais donner cette profondeur de champ à notre situation présente modifie en tout cas la perspective. Cela permet de mieux dessiner les tâches à accomplir, autant que d'identifier des confusions ou des régressions menaçantes. Se trouve justifiée de cette façon l'idée selon laquelle l'histoire doit être comprise comme le laboratoire actif de notre présent. C'est la conception qui m'a toujours guidé dans le choix du sujet de mes livres et dans la façon de les écrire. Et c'est une chose que j'ai explicitée dans la leçon inaugurale « En ces murs du collège ». Considérant que l'attention aux problèmes contemporains les plus brûlants et les plus pressants ne saurait se dissocier d'une méticuleuse reconstitution de leur genèse. Dans cette approche même, subsiste cependant une question qui ne cesse aujourd'hui de me tarauder. Pourquoi est-ce seulement en ce 21e siècle déjà bien entamé que cette problématique de l'avènement d'un troisième âge de l'émancipation paraît s'imposer et dicter les tâches à accomplir? Si c'est en 1968, 68 étant pris comme une date symbolique, qui était donné le signal d'un changement d'époque, pourquoi a-t-il fallu attendre 50 ans, ou pratiquement 50 ans, pour que le basculement alors amorcé puisse être interprété dans toute son ampleur et avec toutes ses conséquences, dans des sens d'ailleurs radicalement différents, puisque ce sont justement au fond des choses, les interprétations de mai par exemple, j'y reviendrai longuement, qui commandent aujourd'hui en France les approches conflictuelles du présent. Ce sont les questions auxquelles il me semble décisif de répondre.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre-Auzan Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Aujourd'hui, une histoire longue de la modernité et de l'émancipation. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Auzan Vallon. Son dernier ouvrage, Le Bon Gouvernement, est disponible depuis janvier dans la collection Point Seuil. Je rappelle également le recueil autour de Pierre-Auzan Vallon sous la direction de Sarah Almatari et de Florent Guénard, La démocratie à l'œuvre, au Seuil également en 2015. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons l'exploration de la révolution de mai 68 en compagnie de Pierre-Auzan Vallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.